La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour. Après le poète, le musicien, je vous propose d'entendre Arthur Laurier et de comprendre la relation entre lui et les Maritains. Troisième volet de notre réflexion autour de Art et Scolastique, publié en 1920. Après Rouault, le peintre, après le poète Jean Cocteau, il était juste de s'attarder un petit peu sur les musiciens, qui sont nombreux dans la vie de Jacques Maritain. Et Arthur Laurier fut un musicien russe, réfugié politique, qu'ils ont beaucoup soutenu. Et ils vont même lui laisser leur maison de Princeton, dans laquelle il mourra. Il est enterré à côté de Vera, dans le petit cimetière de Princeton. Laurier, Arthur Laurier, a, pour Maritain, fait l'objet de pages rajoutées dans les aventures éditoriales de Art et Scolastique, où Maritain parle de musique ontologique. Voici ce que Sylvain Guénat, dans le recueil publié par la Biennale de Strasbourg en 2016, Maritain et les artistes, écrit à propos de cette musique ontologique. Selon Maritain, c'était une musique venue des racines de l'être, de cette pointe où l'esprit contacte l'âme. Une musique existentielle aussi, où l'être entier est concerné, l'homme dans sa condition charnelle, transpercé d'amour et de désir, de peur et de souffrance, la bouche ouverte vers le ciel. Une musique religieuse enfin, écrivait Maritain, en accord avec Boris de Schlitzer dans le Courrier des Îles et avec Henri-Irénée Maroux, sous le pseudonyme de Henri Davenson dans Esprit, qui ne s'éveille tout à fait que sous une touche de l'amour de Dieu. Une musique qui ne pouvait s'exprimer royalement que par la mélodie, car contrairement au motif ou au thème, la mélodie est irrationnelle, issue du préconscient de l'esprit. Il peut exister une mélodie angélique, mais non un rythme angélique, parce que dans l'éternité, il n'y aura plus de temps, mais il y aura toujours une louange. Jacques Maritain pensait que Laurier avait atteint la plénitude de son art avec la sonate liturgique, puis le concerto spirituel et enfin la symphonie dialectique. Comment comprendre ces lignes ? On a vu dans l'émission précédente combien la logique était importante et là, on voit qu'il faut que la mélodie soit irrationnelle, issue du préconscient de l'esprit. Alors, il faut revenir à un schéma que j'ai déjà un peu esquissé dans les premières émissions sur Bergson et qui va s'épanouir dans l'intuition créatrice dans l'art et la poésie. C'est un schéma où trois cônes sont hantés sur le même lieu, la même accroche, un point nodal qui est le soi, qui est le je profond, qui est le lieu profond de la personne. Ces trois cônes vont de l'extérieur vers l'intérieur. Le cône extérieur, c'est les sens qui nous permettent de rentrer en contact avec le monde. Le cône intermédiaire, ce sont les sens internes, imagination, mémoire. Et puis le cône le plus intérieur, c'est celui qui permet le concept. Et ces cônes s'accrochent dans ce point nodal qui est celui du soi. Et à partir de ce soi, descend une zone que Maritain va rayer puisque les cônes sont donnés de manière verticale et cette zone il va l'appeler le préconscient spirituel en opposition ou en complément avec le préconscient freudien qui lui part d'en bas et s'articule simplement sur le cône extérieur, celui des sens. Ce préconscient pulsionnel ne fait pas droit finalement à la profondeur de l'être de la personne, à ce jeu profond, à ce soi, à cet ensemble nodal où finalement toutes les dimensions de la personne sont concernées. On comprend très bien pourquoi Maritain peut donc dire qu'il faut une mélodie angélique parce qu'elle est dans l'éternité et qu'elle est irrationnelle, mais elle n'est pas pour autant hors de toute logique. Elle vient s'appuyer dans ce point profond, mais elle va s'exprimer par la logique. C'est toujours ce même mouvement de la descente du spirituel dans le temporel et finalement du passage d'une forme de puissance à un acte. On reste bien dans une philosophie réaliste marquée par cette différence. Maritain écrit à propos de Arthur Lourier qu'il s'agit d'une musique objective, c'est-à-dire qu'elle va dépasser simplement la subjectivité de l'artiste. Pourquoi ? Parce que justement, elle vient dans le plus profond du jeu. Je vais donc donner un extrait d'un article de Maritain sur Arthur Lourier qui est publié dans les cahiers Jacques Maritain, et je mentionne ces cahiers parce qu'ils existent toujours. C'est une mine inépuisable de documents inédits ou de commentaires ou de lettres ou de témoignages. Pour les amateurs de Jacques Maritain et de la philosophie réaliste, c'est vraiment une source que vous pouvez consulter à Toulouse, chez les Dominicains de Rangueil qui en ont un exemplaire, et à l'Institut catholique, à la bibliothèque. Donc voilà comment Jacques Maritain qualifie la recherche musicale de Arthur Lourier. L'œuvre musicale est pour Arthur Lourier comme une réponse aux appels indicibles d'un univers sonore nouménal, d'une très mystérieuse et secrète patrie. Comment ne pas songer ici à certaines phrases de Marcel Proust ? Pour lui aussi, on le notait récemment dans une remarquable étude, note par note, le musicien étant parmi nous les colorations d'un univers inestimable, insoupçonné, qui est comme sa patrie inconnue. Cette patrie perdue, les musiciens ne se la rappellent pas, mais chacun d'eux reste toujours inconsciemment accordé en un certain unisson avec elle. Il délire de joie quand il chante selon sa patrie, la trahit parfois par amour de la gloire, mais alors en cherchant la gloire, il la fuit, et ce n'est qu'en la dédaignant qu'il la trouve. Quand il entonne, quel que soit le sujet qu'il traite, ce chant singulier dont la monotonie, car quel que soit le sujet traité, il reste identique à lui-même, prouve la fixité des éléments composants de son âme. Je crois que cette citation nous permet de comprendre ce qu'est ce soi, ce jeu qui est le cœur de la personne et finalement le cœur de l'inconscient spirituel. Et c'est à travers ce contact avec Lourier, avec cette musique que les Maritains ont valorisée, surtout avec leur ami Vladimir Gicka qui a cherché des fonds dans toute l'Europe pour les faire jouer en Belgique, à Paris, dans les grandes salles. Je crois qu'on peut vraiment comprendre combien ce dialogue permanent avec les artistes a permis l'élaboration de la philosophie sur l'art de Jacques Maritain.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
reprendre la mélodie avec Lourier, nous allons approfondir en revenant à Ars Scholastique, à partir finalement d'une réflexion sur la ressemblance entre l'artiste et Dieu. Je reprends donc l'article de Maritain sur Lourier, où il dit que Lourier touche le point essentiel parce que toute mélodie a la propriété de révéler quelques vérités intimes, de découvrir la réalité originale, psychologique et spirituelle de celui qui crée la mélodie. La mélodie découvre la nature du sujet et non de l'objet. Disons qu'elle découvre la valeur ontologique de la personne. Et cela nous permet de revenir sur Ars Scholastique pour quelque chose d'éminemment théologique, on pourrait dire. Maritain dit que l'idée créatrice n'est pas une forme intellectuelle, parce que nous sommes au plus bas degré parmi les esprits. Au contraire, opérant avec les organes sensibles, le germe spirituel qui féconde l'art n'est pour nous qu'un rien divin à peine entrevu. Nous, esprits incarnés dans des corps, nous sommes obligés de puiser des choses, les formes dont nous nous servons. Les choses se passent autrement en Dieu. Il voit dans ses idées toutes les manières dont peut être manifestée son essence et qui produit les créatures sur leur modèle, apposant son sceau sur tout ce qui est créé. C'est ici seulement dans les sommets de la divinité que l'idée, comme forme artistique, obtient son entière plénitude, requise par sa raison. Maritain, dans Ars Scholastique, va jusqu'à écrire que la poésie est théologie, en reprenant la définition de Boccace. Cette divination du spirituel dans le sensible, et qui s'exprimera elle-même dans le sensible, c'est bien là ce que nous appelons poésie. La métaphysique aussi poursuit le spirituel, mais autrement. Tandis qu'elle se tient sur la ligne du savoir et de la contemplation de la vérité, la poésie se tient dans la ligne du faire et de la délectation de la beauté. L'une capte le spirituel dans une idée et par une intellection abstraite, l'autre l'entrevoit dans la chair et par la pointe même du sens que l'intelligence aiguise. La métaphysique fait la chasse aux essences et aux définitions. La poésie fait la chasse à tout ce qui jette un éclat en passant. La métaphysique isole le mystère pour le connaître. Celle-ci le manie et l'utilise comme une force inconnue. Et Maritain va encore un cran plus loin pour finalement intégrer le Christ. Ce n'est pas tout de parler de Dieu comme le modèle de l'artiste. Il veut aller jusqu'au bout et parler de la croix. Voici comment il conclut, et c'est à partir finalement de ces échanges avec les artistes et avec Lourier qu'on peut comprendre ces lignes. La pureté n'est pas où la chair n'est pas crucifiée. La liberté où n'est pas l'amour. L'homme est appelé à la contemplation surnaturelle, cela signifie lui voler son bien, que lui proposer une autre nuit. Une révolution qui ne change pas le cœur de l'homme ne fait que retourner des sépulcres blanchis. Chaque poète est coupable s'il oublie la transcendance métaphysique de la poésie, parce que dans l'œuvre de la création, la parole a été art, l'esprit a été poésie. Et citant Cocteau, il dit « parce que la poésie de mon Dieu est tue ». L'art moderne a oublié beaucoup de ses principes, que Maritain considère si universellement valables et si inviscérés dans l'essence des choses. C'est pourquoi il marche au bord de l'abîme dans lequel nombreux sont à se casser le cou, les uns par suffocation, les autres par libertinage. Toutefois, il existe une catégorie qui atteint l'absolu et qui s'en nourrit, fécondant à la fois son art et son âme. Donc, revenir toujours à la foi, non pas pour mélanger finalement des articles de foi à la philosophie, mais pour permettre une philosophie, comme dira Maritain, adéquatement prise, qui peut comprendre la geste créatrice, le travail de l'artiste et l'œuvre d'art. Et c'est à partir de cet échange avec Arthur Lourier qu'on a pu arriver à cette relecture de Art Scolastique. Et je vais conclure ce dernier volet sur Lourier par la fin de l'article écrit par Jacques Maritain sur Lourier. Et voici ce qu'il dit. Lourier remarque avec profondeur: nos capacités mélodiques sont directement proportionnelles à nos capacités pour le bien et pour l'amour. Bien entendu, non pas dans un sens sentimental, mais religieux. Il ne peut du reste y avoir de mélodie méchante. Une mélodie méchante est un non-sens. Il peut y avoir un motif musical motivant une force mauvaise. Il pense à Wagner. Mais il ne peut y avoir de mélodie méchante. La mélodie est un bien par elle-même. C'est pourquoi elle est une expression de celui qui la produit. Elle est comme une confession par le fait qu'elle révèle l'essence non défigurée de ce qui est et non le mensonge imaginé par son auteur. Peut-être, ajoutait Lourier, le temps est-il proche où cette pierre rejetée par les bâtisseurs sera de nouveau placée en clé de voûte. Si la musique de Lourier est comme portée sur les profondeurs insondables du cœur humain, si sa matière, à mesure qu'elle s'allège, devient toujours plus riche et plus révélatrice, si elle est tout à la fois musique pure et musique chargée de sens et d'universalité concrète, cela est dû pour une grande part à ce qu'elle est vivifiée tout entière par la mélodie, qui jaillit du recet impénétrable de la personnalité de l'homme et qui soulève et transfigure, en lui laissant toute sa réalité charnelle, la masse de la structure harmonique. C'est un article écrit et publié en avril 36. À tout à l'heure avec Marc Chagall.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Après Arthur Lourier, Marc Chagall. C'est la fin de notre cycle sur art scolastique. La semaine prochaine, nous reprendrons un débat contradictoire avec Jean-Christophe Ronet autour des écrits sur l'art de Jacques Maritain. Et Marc Chagall est forcément l'ami proche de Raïssa. Ils s'écrivent en russe. Les lettres ont été traduites, elles sont déposées à la BNU. C'est quelqu'un qui fréquentait les Maritains, qui était très proche. Et Raïssa Maritain a été sollicitée par le père Couturier pour écrire un petit article sur Marc Chagall qui a été publié en 1950. Voilà ce qu'elle dit. Ai-je besoin de rappeler l'horreur que Chagall a toujours eue du réalisme ? Arrivé à Paris en 1910, il avait 20 ans. Il note à propos des nouvelles écoles que toutes ses conceptions lui semblent trop terrestres et il s'écrit « Abat le naturalisme, l'impressionnisme et le cubisme réaliste ». Il est le premier surréaliste, mieux qualifié cependant par Apollinaire, à qui il se hasarde un jour à montrer ses toiles. Apollinaire s'assied, il rougit, enfle, sourit et murmure « Surnaturel ». Prophétie de prophète, c'est que le surréalisme de Chagall a un caractère spirituel autant qu'un caractère plastique. Et Chagall s'est toujours étonné qu'on puisse concevoir un art sans mysticisme. Mais je ne crois pas qu'il ait jamais défini, sinon dans son propre mouvement créateur, le sens de ce mot. Surnaturel, mysticisme, nous sommes au creux d'une autre discussion qui est très importante dans l'art scolastique, celle de l'art chrétien. Peut-on concevoir un art chrétien ? On connaît les diatribes de Paul Claudel contre l'art sulpicien, qui de Lourdes ou de certaines églises comme Saint-Jean l'Évangéliste à Paris. Et Maritain prend cette même mouvance. Comment ferait-il autrement, lui qui est le filleul de Léon Blois ? Alors il va écrire que finalement il ne faut pas faire de l'art chrétien. Pourquoi ? Parce qu'on changerait la finalité de l'art. L'art a une œuvre à produire en fonction des règles elles-mêmes de l'art. Et la poésie, vous l'avez bien compris, la poésie, ça a un autre nom, c'est l'intuition créatrice, c'est cette espèce de mouvement, de dynamisme qui traverse l'auteur, l'acteur, le créateur, l'artiste. Elle ne peut advenir que si l'art est libre. Il a ses règles, mais on ne peut pas lui imposer une autre finalité qui va le dévoyer. Du coup, comment envisager un art qui puisse être un art religieux ? C'est toute la problématique de leur ami Severini, ou même des dessins ici qu'on a eu à Encalcate, puisqu'on a deux filleuls de Jacques Maritain qui ont été moines à Encalcate, dont Clément Jacob pour la musique, et puis dont Robert pour la peinture et les tapisseries. Vous pouvez aller voir le musée à Sorèze. Ici, vous avez une des lignes de Maritain qui est très claire. Soyez chrétien, ne cherchez pas à faire chrétien. Maritain confirme le refus de tout embrigadement stylistique parce qu'il suppose un engagement à prendre au sens fort. Ne tentez pas cette entreprise absurde de dissocier en vous l'artiste et le chrétien, ils sont un. Si vous faisiez de votre dévotion une règle d'opération esthétique, ou si vous tourniez le souci d'édifier en un procédé de votre art, vous gâteriez votre art. Ainsi, l'œuvre chrétienne veut l'artiste libre en tant qu'artiste et saint en tant qu'homme, non au sens d'un saint canonisable, mais afin de mettre en œuvre la formule de Fra Angelico si chère à Maurice Denis, à savoir, pour peindre les choses du Christ, il faut vivre avec le Christ. La foi de l'artiste s'exprime dans son habitus artistique et elle transparaît dans son œuvre en permettant l'adéquation de la forme à sa destination. La recherche d'une esthétique chrétienne se traduit non dans celle d'une époque historique de référence ou d'un style précis, mais dans la quête de la forme juste. On ne peut plus faire la dichotomie entre art chrétien et un autre art. Ces lignes sont de Isabelle de Saint-Martin dans le catalogue de la BNU, Maritain et les artistes, auxquels je vous renvoie avant de vous retrouver la semaine prochaine pour un débat contradictoire avec Jean-Christophe René. Au revoir.